Bonsoir à toutes et à tous, Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM, aujourd'hui nouveau volet de l'émission Mode d'emploi, animé par la Fondation Copernic, comme tous les quatrièmes vendredis du mois. Aux manettes et à la programmation musicale, c'est Ludo, Damien et Mathieu au micro. L'émission de ce soir est consacrée au revenu universel, un sujet qui s'est imposé dans les débats de la primaire socialiste, mais que nous avions programmé pour ce mois-ci depuis l'été dernier déjà, à croire que Benoît Hamon s'est inspiré de notre programme annuel. Donc nous allons essayer d'y voir un peu plus clair sur le revenu universel, sa genèse, sa terminologie, ses expérimentations, ses conséquences positives et aussi les critiques qu'il déclenche. Pour en discuter, nous recevons trois invités ce soir. Au téléphone, nous avons Jean-Marie Arribet. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Donc Jean-Marie Arribet, vous pouvez me contredire si je me trompe, mais vous êtes donc un ancien maître de conférence d'économie à l'université de Bordeaux 4. Donc vous travaillez en particulier sur la critique de l'économie politique, les concepts de valeur et de richesse, le travail, la protection sociale et le développement soutenable. Vous êtes chroniqueur à Politis, membre d'ATTAC, des économistes atterrés et de la Fondation Copernic. C'est bien ça ?
C'est à peu près ça.
Très bien. Nous avons en studio Frédéric Luteau, qui
bonsoir.
Bonsoir. Vous êtes membre actif du réseau Salariat Île-de-France et ancien membre du bureau national du Parti Socialiste.
Exactement. Et je travaille aussi avec Gérard Filoche au sein de Démocratie et Socialisme.
Voilà. Parfait. Nous avons également Édouard Gross qui nous accompagne ce soir. Vous êtes également membre actif du réseau Salariat Île-de-France.
C'est ça.
Bonsoir.
Bonsoir Jean-Marie.
Bonsoir à tous.
Donc vous pourrez réécouter cette émission mercredi à 7h du matin sur Fréquence Paris Pluriel ou l'écouter en ligne sur le site internet de la Fondation Copernic et sur celui de Mode d'emploi.
Bonsoir à toutes et tous. Donc, en effet, comme il a été dit en introduction, le revenu universel est un débat qui occupe aujourd'hui la scène politique et sociale. Alors, peut-être avant de lancer un débat, revenons peut-être sur la genèse et finalement la définition du revenu universel. Quand on s'y intéresse, on voit un grand nombre de termes associés à ce revenu. Revenu de base, revenu universel, revenu inconditionnel, salaire à vie, allocation, revenu d'existence. Peut-être Frédéric Luteau, dans un premier temps, pouvez-vous nous faire une description de cette genèse, de ces terminologies ?
Oui, moi je ne suis pas un spécialiste de la genèse du revenu universel. Je voudrais quand même distinguer deux choses. Effectivement, sur le revenu universel, c'est une étiquette qui regroupe beaucoup de choses aujourd'hui, ce qui fait d'ailleurs l'objet de débats assez vifs au sein de la gauche, et puis même au sein de la droite, parce que il y a des gens de droite qui veulent le revenu universel. Voilà.
Ça, c'est une particularité, ça nous arrive pas souvent de faire des émissions où le sujet est traité à la fois à gauche et à droite.
C'est ça, il fait polémique, et c'est pour ça d'ailleurs que j'espère que l'émission sera passionnante, elle permettra d'apporter un éclairage sur l'enjeu de ce revenu universel qui d'une certaine manière part d'une bonne intention, hein, c'est de donner un revenu à tout le monde, d'offrir une dignité sociale, de vouloir que chacun puisse vivre d'une allocation, voilà. Et puis bon, je voudrais quand même préciser que sous cette étiquette, il faudrait quand même retirer le salaire à vie. Voilà, qui se positionne quand même différemment, voilà, même si je sais que Jean-Marie Arribet peut avoir des divergences sur ce point de vue. On aura peut-être l'occasion
d'y
évoquer, on y viendra. Il y a quand même une distinction à mettre en place, je pense, entre le revenu universel et le salaire à vie. Alors, moi, je suis là en tant que réseau salariat. C'est par le réseau salariat que j'ai été invité. Et il se trouve que aussi, je suis très impliqué dans la campagne des primaires en ce moment. Voilà. Pour l'unité de la gauche, voilà, parce qu'on pense que sans rassemblement de la gauche pour au premier tour, ça sera Fillon-Le Pen au second. Donc il y a un enjeu aussi important pour pouvoir rassembler la gauche. Et évidemment, le revenu universel étant une des mesures phares de Benoît Hamon, va falloir un petit peu régler cette histoire à gauche, voilà. S'y opposer de manière frontale comme ça, c'est peut-être pas la solution non plus, mais pouvoir essayer de porter un regard critique sur les propositions de Benoît Hamon afin d'arriver à une convergence qui convienne à tout le monde, parce que Réseau Salariat porte un projet, c'est celui d'une alternative au capitalisme. D'accord, hein, on est très clair là-dessus. Notre perspective, c'est mettre en œuvre une société en dehors du capital, qui soit une alternative au capitalisme. La difficulté aujourd'hui, c'est la période de transition. Hein. C'est un programme de transition. C'est d'ailleurs un petit peu souvent les reproches qu'on peut nous faire. Voilà. Donc effectivement, il y a la perspective, il y a la nécessité aussi du programme de transition. Et puis il y a l'objectif, effectivement, que se fixe le réseau salariat, qui ne veut pas une perspective utopique de l'alternative au capitalisme, mais qui repose sur une analyse concrète, c'est-à-dire sur un déjà-là, sur des institutions qui existent déjà, des institutions du salariat, et qui permettent d'envisager très concrètement, voilà, donc une alternative au capitalisme, et notamment un salaire à vie. Donc ce qui est très intéressant, à mon sens, dans le revenu universel, c'est qu'il va poser la question du salaire. Et on ne peut pas comprendre le revenu universel si on ne pose pas la question du salaire. Et tout va se jouer autour de cette question pour vraiment comprendre le revenu universel.
Ouais. On va donner la parole à Jean-Marie Haribet. Est-ce que vous pouvez nous éclairer, même si je sais que bon, vous ne retrouvez pas forcément dans les différents termes qu'on a évoqués, mais est-ce que vous pouvez nous exposer un petit peu les différences de concept entre le revenu universel, le revenu de base, le salaire à vie? Est-ce que vous pouvez éclairer un peu nos auditeurs?
Bon, alors effectivement, il est intéressant de s'interroger sur la genèse de ces notions. Mais bon, je considère personnellement, et je peux apporter des arguments dans ce sens, que revenu universel, revenu d'existence, allocation universelle, revenu de base, etc., sont synonymes, même si ce n'est pas utilisé par les mêmes personnes ou les mêmes réseaux. Mais je crois que pour l'auditeur, il faut qu'il comprenne que ce sont des termes synonymes. Je viendrai sur le salaire à vie dans un instant. Mais plus intéressant que la genèse, c'est il s'agit d'expliquer pourquoi cette proposition refait surface aujourd'hui alors que l'on sait qu'elle est assez ancienne dans l'histoire? Mais parce que nous sommes face à une crise du capitalisme devenue mondialisée, phénoménale, et qui met en jeu tous les mécanismes économiques, sociaux, écologiques de la planète, et qui plonge les victimes de cette crise dans un état de délabrement, de pauvreté, de précarité, de chômage, qui semblent incompressibles, et au contraire qui vont en galopant à la mesure des inégalités. Et donc dans ce contexte-là, il est tout à fait compréhensible que l'on s'interroge sur la protection sociale dans son ensemble, et en particulier sur les fameux minima sociaux qui, bien que n'étant pas négligeables, on y reviendra peut-être en France, n'arrivent pas à colmater les brèches créées par cette crise. Et donc, voilà le contexte qui explique pourquoi, pas simplement parce que Hamon s'est emparé de l'affaire, pourquoi depuis plusieurs années, déjà, cette question agite les mouvements sociaux, les organismes progressistes de gauche et les libéraux intelligents. Parce qu'il y a des libéraux qui sont intelligents et qui sentent bien quel parti ils pourraient tirer de la mise en place d'un revenu d'existence ou d'une allocation universelle.
Et quand vous dites c'est un concept qui est très ancien, ça remonte à quelle époque et quelles sont les racines idéologiques?
Les prémices de cette idée remontent à la fin du 18e au début du 19e siècle. Donc, mais bon, on va pas faire une leçon d'histoire. Et l'important, c'est de comprendre l'enjeu qu'il y a aujourd'hui. Or, je pense que si on regarde la crise que je viens d'évoquer, il y a une idée sur laquelle surfent tous les partisans, sans aucune exception, du revenu de base ou du revenu universel, c'est que le travail serait en voie de disparition. Ou, variante, que le salariat serait en voie de disparition. Ou, nouvelle variante, que les protections sociales attachées au salariat, qui avaient fait la caractéristique du salariat dans la deuxième moitié du XXe siècle, essentiellement depuis la Seconde Guerre mondiale, ces protections sociales seraient obsolètes et qu'il faudrait donc les remplacer. Et la nouvelle idée, ce serait le revenu universel. Et la première chose que je voudrais dire, et qui va marquer ma position sur ce terrain-là, et que j'ai exprimé avec quelques amis et collègues dans un petit livre qui vient de paraître, qui s'appelle « Contre l'allocation universelle », qui est édité par l'éditeur canadien Lux et qui est maintenant disponible en France, et j'annonce que nous en préparons un autre de la Fondation Copernic et des économistes atterrés sur la même question, qui mettra les choses encore sous un autre angle. La première idée, c'est que qu'il faut examiner, c'est est-ce que le travail est en train de disparaître à l'échelle de l'humanité et dans les pays comme les nôtres, où paraît-il les robots vont remplacer l'être humain et donc qui nous condamnerait soit à ne plus avoir de travail à accomplir ou à n'effectuer que des travaux qui seraient sous la forme ubérisée, c'est-à-dire où on serait soit auto-entrepreneur, soit faux travailleur indépendant sans protection sociale. Et donc la première idée est de réfuter cette assertion. Il n'y a aujourd'hui aucune étude sérieuse dans le monde et qui ne soit pas controversée qui expliquerait que la moitié des emplois vont être automatisés dans les prochaines décennies. Personne ne peut dire aujourd'hui ce que deviendra l'automatisation dans 50 ans. On ne peut pas bâtir un projet de cette nature-là. Et puis, il y a un fondement en termes de philosophie politique qu'il s'agit de mettre au jour. C'est-à-dire que tous les partisans, tous les philosophes et sociologues ou économistes ou hommes politiques qui adoptent cette mesure-là approuvent plus ou moins, et plutôt plus que moins, l'idée que le travail ne serait pas ou ne serait plus un des facteurs d'intégration dans la société, un des facteurs de reconnaissance sociale qu'obtiendraient les individus en s'insérant dans un travail collectif. Et donc là, il y a une négation de la dialectique du travail, pardonnez-moi ce gros mot, hein, une négation de l'ambivalence du travail qui, effectivement, est un travail aliéné par le capitalisme et qui, en même temps, est porteur d'insertion sociale et donc porteur potentiellement d'émancipation qu'il ne faut pas lâcher. Et donc l'idée que le plein emploi serait aujourd'hui inatteignable et surtout définitivement inatteignable est une idée qu'il faut combattre de pied ferme parce qu'elle va signer l'abandon de toutes les conquêtes sociales qui avaient été acquises depuis le XXe siècle et faire le lit dès la récupération par la droite et par la droite intelligente de cette proposition parce qu'ils vont y voir un moyen de libéraliser un peu plus le marché de l'emploi et de contourner notamment le salaire minimum si la société verse un revenu minimum. Donc il y a là donc quelque chose qui est de l'ordre de l'illusion, pour ne pas dire de la mystification. C'est-à-dire que prétendre d'abord que le travail c'est fini, alors qu'il y a une immensité de besoins sociaux à satisfaire, prétendre que les protections sociales sont obsolètes, alors que, bien qu'elles soient tout à fait importantes, elles n'arrivent pas à colmater les brèches dont je parlais tout à l'heure. Bref, tous ces attendus, soit en termes de philosophie politique, soit en termes de sociologie, nous paraissent erronés. Et alors, je vais y revenir quand on va discuter avec mon ami là qui est présent et les deux amis qui sont présents pour le réseau salariat, il y a dans toutes les théories du revenu universel, il y a alors un impensé radical, un impensé immense qui est sur l'origine de ce qu'on appelle la valeur au sens économique, c'est-à-dire monétaire du terme, et qui ne peut provenir que du travail. Et donc, l'idée qu'il y aurait un ailleurs où se nicheraient des richesses potentielles qu'il suffirait de monétariser, ça c'est une illusion complète parce que les activités libres que, soi-disant, le revenu d'existence permettrait, ces activités libres peuvent être d'authentiques gisements de création de valeur, d'usage au sens d'utilité, mais il n'y a pas un automatisme qui nous fait aller directement de la valeur d'usage à la valeur au sens économique du terme. Et pour qu'il y ait ce passage, eh bien il n'y a que deux moyen, que le capitalisme donc a mis en œuvre d'une part, mais qu'il a dû concéder d'autre part. Je m'explique, c'est-à-dire que le marché va valider les anticipations des entreprises quand elles projettent de vendre des marchandises. Si elles réussissent à le faire une fois qu'elles les ont fait produire par leurs salariés, eh bien, leurs anticipations sont validées, donc le travail qui a été effectué est validé. Donc il y a une vraie valeur qui a été créée, sans porter de jugement de valeur. Notre langue ne facilite pas la chose avec la polysémie du mot valeur. Et il y a un deuxième mode de validation sociale, de validation collective, c'est la décision politique, au sens noble du terme, de faire produire des services non marchands et dans lesquels le travail est éminemment productif, contrairement à ce qu'on nous raconte dans les discours libéraux, voire dans certains discours hétérodoxes. Le marxisme traditionnel a véhiculé cette idée fausse selon laquelle les travailleurs dans les services non marchands, l'enseignement, les hôpitaux publics ne produisent rien. Eh bien non, c'est faux, ils produisent. Et donc, il faut différencier cette question-là de la véritable production de valeur économique dans les services non marchands des activités libres à laquelle nous nous adonnons. Ce soir, nous sommes 4 ou 5 autour du micro. Eh bien, nous n'allons pas faire augmenter d'une once le PIB parce que nous nous divisons gentiment entre amis. La différence entre le lien social créé, donc éminemment richesse au sens global de ce mot, n'est pas synonyme de création de valeur au sens économique.
Jean-Marie Arribé, je me permets de...
Je termine. Oui. C'est cette distinction-là qui sépare radicalement les partisans du revenu de l'existence de ses opposants, parce que derrière cette question va se poser celle du financement. Nous y reviendrons dans un instant.
D'accord. Alors peut-être avant de parler vraiment du contenu du revenu universel, peut-être un droit de réponse sur peut-être la place du travail selon le réseau salariat, ou une réaction sur ces propos.
Oui. Je partage beaucoup de choses avec Jean-Marie. J'ai des divergences, bien entendu. Nous, à RSE Salariat, on considère que nous sommes tous producteurs de valeurs d'usage. D'accord ? Voilà. Seulement, aujourd'hui, le capitalisme ne considère la valeur, le créateur de valeur économique, que ce qui valorise un capital ou ce qui, effectivement, a été validé socialement, souvent par des luttes sociales, en tant que service public, tout ce qui est les prestations, notamment grâce à un outil, grâce aux impôts et à la cotisation sociale. Tout ce qui est le régalien, et puis tout ce qui relève aussi des retraites, de la santé, des allocations familiales, etc., qui a été arraché donc au capital, avec une institution qui a été éminemment révolutionnaire. C'est l'analyse d'ailleurs de Bernard Friot, qui pose donc l'institution salariale, qu'est la sécurité sociale, comme une institution éminemment anticapitaliste, parce que elle vient aujourd'hui valider une création de valeur qui ne passe pas par le marché, vu que les cotisations sociales arrivent avant les profits, d'accord ? La cotisation sociale est prise sur la valeur ajoutée avant les profits. Alors est-ce que c'est un retrait ou c'est un ajout ? C'est ça, au PIB, c'est la vraie question qui est au cœur du jeu. Nous, on considère qu'aujourd'hui, il n'y a pas de personne d'inutile. Tout le monde crée de la valeur d'usage. Et effectivement, il y a 30%, donc c'est 30% du PIB qui est consacré aux cotisations sociales. Et effectivement, qui reconnaissent une création de valeur qui n'est pas celle de la valorisation du capital. Voilà. Notre point de vue, nous, c'est que 30%, c'est insuffisant. Il faut pousser le curseur à fond. Il faut socialiser l'intégralité de la valeur ajoutée, ce qui nous permettra de répartir donc la valeur du PIB sur l'ensemble de la population active. Voilà. Donc tout le monde aura un salaire, parce que tout le monde est producteur. C'est pas une allocation qu'on va donner à ceux qui sont exclus du marché du travail en attendant d'en trouver. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout le monde est producteur. Donc tout le monde va toucher un salaire et va ensuite s'inscrire dans l'activité économique et va prendre sa responsabilité avec à travers une libre association des producteurs qui sera avec des entreprises qui seront co-gérées par les salariés, puisqu'il n'y aura pas de capital. Donc voilà, ça c'est déjà une distinction avec Jean-Marie. La deuxième, c'est sur effectivement le travail qu'il faut inscrire dans une historicité. On parle du travail effectivement sous régime capitaliste, et lui, on va voir le travail lié à la production, hein, voilà. Aujourd'hui, et ce qu'on peut constater quand même malgré tout, c'est qu'il y a une érosion du volume d'heures travaillées depuis maintenant 2 siècles. Hein, et non, si on va et effectivement se réduit le nombre d'heures travaillées. Alors c'est fluctuant, mais en tout cas, il y a des nouveaux emplois qui se créent, d'autres qui sont détruits. En tout cas, les nouveaux emplois aujourd'hui en régime capitaliste ne compensent pas les emplois créés, pardon, ne compensent pas les emplois détruits. Donc il y a vraiment une question à se poser ici. Quand on est dans une économie de marché capitaliste comme la nôtre, une économie marchande qui passe par la validation, par la valorisation du capital, comment on répond au surtravail, hein, c'est-à-dire qu'aux gains de productivité qui sont liés à l'extraction de la valeur ajoutée, c'est-à-dire au surtravail qu'il y a dans les entreprises, dans l'appareil de production capitaliste, qui effectivement emploie, qui diminue l'activité humaine, hein, pour évidemment extraire la valeur ajoutée. Voilà.
On peut discuter, s'immiscer dans les propos pour pas qu'après on discute.
Oui, bien sûr, mais on va juste faire une petite pause musicale et on revient sur ce débat tout de suite. On va écouter Alain Leprest, Le temps de finir la bouteille.
Finir la bouteille, j'aurais rallumé un soleil. Il osait mieux, le temps de tuer la bouteille, le temps de tuer la bouteille.
Ça y est, la bouteille est terminée. Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM. Vous êtes sur l'émission Mode d'emploi animée par la Fondation Copernic, consacrée ce soir au revenu universel. On va donner la parole à Edouard Gross qui voulait intervenir sur la différence entre l'emploi et le travail et le lien justement avec le concept de revenu universel.
Oui, il y a une nette distinction à faire lorsqu'on parle de travail, où je rejoins Jean-Marie Arrimet. Dire que le travail est terminé ou que le salariat est terminé, c'est une hérésie, bien sûr, parce que c'est l'emploi qui manque, c'est pas le travail. Donc le travail, il y a des besoins criants en la matière. Est-ce que tente d'imposer une certaine notion du revenu universel, c'est justement de pallier à cette carence qu'a le capitalisme de générer suffisamment d'emplois pour que chacun ait accès à la subsistance, au moins à la subsistance, sinon à l'émancipation. Donc cette carence-là, le biais qui est en train d'être pris, il est sur cette tentative de réduire ce besoin à un revenu qui est généralement bien en dessous du seuil de pauvreté, ce qui offre là au patronat une marge de manœuvre qui a déjà été abordée en partie dans le préliminaire qu'a fait tout à l'heure comment vous appelez Damien. Donc évidemment que ce serait le recours à l'emploi qui permettrait de compléter ce revenu universel, et là évidemment le patronat reprend une place plus qu'hégémonique, puisque ce sera à ses conditions et avec certainement la disparition du SMIC et encore un abaissement des salaires en cours. Donc c'est une pente extrêmement dangereuse que de se glisser dans cette option qui semble facile comme ça, de dire on va distribuer un revenu à tout le monde de manière inconditionnelle parce qu'il n'y a plus de travail, mais la cause n'est pas là, je viens de le dire. Et c'est dans ce sens-là où il faut être très attentif aux mots qui sont utilisés. La pénurie, elle est dans l'emploi, elle n'est pas dans le travail. Voilà ce que je voulais un petit peu rajouter.
Peut-être Jean-Marie Arribé, vous souhaitiez réagir avant la pause musicale.
Alors, deux choses. L'une par rapport à ce qui a été dit par mes amis et l'autre par rapport au financement du revenu d'existence dans les projets qui nous sont présentés aujourd'hui. Alors, sur le premier point, tout le monde est-il producteur ? Et je reconnais là la thèse de Bernard Friot qui a initié le réseau salariat et les réflexions qui sont autour. Tout le monde est producteur de valeur d'usage, oui. Mais ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, c'est que ça ne signifie pas que tout le monde est producteur de valeur. Et c'est là le point où je me sépare de Bernard Friot, et je pense qu'il se trompe sur ce point, et bon, je le dis amicalement, puisque nous sommes amis, nous connaissons depuis 20 ans, et on discute 5 ou 6 fois par an sur ces questions-là. Je pense qu'il se trompe, parce que le retraité ne produit pas la valeur qu'il reçoit sous forme de pension. Ce sont ceux qui sont dans le monde productif, les actifs, au sens où on entend habituellement, qui produisent la valeur économique, dont une partie, cette fameuse valeur ajoutée, dont tu parlais tout à l'heure, dont une partie sert à certains transferts sociaux. Donc, il ne faut pas récuser le terme de transferts sociaux. Je suis à la retraite depuis 5 ou 6 ans maintenant, je ne produis plus rien en termes de valeur économique. Par contre, ceux qui sont dans l'emploi où ils travaillent, eh bien, eux, ils produisent donc cette valeur qui est distribuée aux retraités et qui sert aussi à transférer un certain nombre de sommes à ceux qui sont exclus pour diverses raisons. Donc, il faut cesser de croire que tout le monde est producteur au sens de la valeur économique. Et ça, malheureusement, en dépit de ce que dit Bernard Friot et l'ensemble du réseau salariat, c'est le point commun avec tous les partisans du revenu d'existence. C'est le seul point commun peut-être, mais il est de taille. Hein, parce que on ne peut pas ensuite refonder une répartition des revenus plus juste en faveur du travail si on a une erreur de raisonnement au point de départ de l'analyse de l'évolution du capitalisme aujourd'hui. Le capitalisme, on a réussi à lui arracher l'existence d'un secteur non marchand dans lequel il y a un vrai travail productif de valeur qui est réalisé et que le capitalisme veut récupérer à tout prix, hein, privatiser l'école, privatiser la recherche, privatiser l'enseignement universitaire, privatiser les soins de santé, etc., etc. Donc il y a un vrai enjeu là derrière. Et autant on peut donc souscrire à un projet normatif comme celui de Bernard Friot de mettre à bas le capitalisme, oui, le problème c'est de savoir dans quelle échéance on pourra le faire, mais il faut asseoir ce projet normatif sur une théorie socio-économique qui ne batte pas de l'aile comme est la théorie que le réseau salariat diffuse, à savoir que tout le monde est producteur. Non, tout le monde n'est pas producteur, sauf à installer une ambiguïté sur le terme de productif, de producteur. Donc on produit du lien social, on produit de la valeur d'usage. Hein. Lorsque j'aide mes petits-enfants à faire leurs exercices de mathématiques, je produis le lien social, et ça c'est sûr, mais je ne produis pas de valeur économique. Donc il faut cesser de dire cela. Sinon, on ne peut plus justifier l'existence de minima sociaux qui soient décents tant qu'on n'a pas réussi à réduire le temps de travail suffisamment pour intégrer tout le monde, tous ceux qui le veulent et le peuvent dans l'emploi. La deuxième chose que je vais dire assez rapidement, donc je reviens au revenu d'existence puisque c'est quand même le sujet de ce soir, tous les projets de financement de cette proposition, que ce soit les projets libéraux du type de celui de Marc de Basquiat et Gaspard Koenig, qui sont les deux figures de proue du libéralisme aujourd'hui sur cette question-là, ou ceux classés à gauche, dits progressistes, et je souligne le dit progressiste, parce que pour moi ce n'est pas progressiste, ces projets-là n'ont aucun financement sérieux. Ou bien il propose d'amputer la protection sociale actuelle. La protection sociale actuelle, c'est, au bas mot, près de 700 milliards d'euros par an. Ou bien on l'ampute pour financer un revenu universel. Ou bien il faut, parce que ça aussi on le rencontre dans les débats publics, ou bien alors il faut augmenter d'une somme à peu près équivalente, entre 650 et 700 milliards d'euros, le nouveau pilier de la protection sociale que constituerait ce revenu universel. Et donc on voit bien que avoir 1200 ou 1300 milliards d'euros de protection sociale, si on n'ampute pas celle qui est aujourd'hui, est totalement infaisable. Et donc asseoir le raisonnement sur des financements aussi extravagants ne peut donner que du grain à moudre pour tous ceux qui sont hostiles de façon à tout minima sociaux, qu'ils soient insuffisants comme aujourd'hui ou qu'ils soient, bien sûr, a fortiori, plus élevés comme on nous le promet dans ces projets de revenus universels. Et donc, les projets qui sont entre guillemets un peu plus raisonnable en termes de financement, par exemple celui de Basquiat ou bien même celui du Mouvement français pour le revenu de base qui démarre entre 400 et 500 euros le montant de ce revenu d'existence, c'est même pas le RSA aujourd'hui. Et parce que le RSA aujourd'hui, c'est un peu plus de 500 euros. Si on y ajoute l'allocation logement auxquelles peuvent accéder les prestataires, on arrive assez près de 750 à 800 euros, qui n'est pas tout à fait le seuil de pauvreté, mais c'est quand même presque deux fois plus que ce que nous promettent les promoteurs du revenu d'existence. Et alors, un dernier mot, j'ai terminé, à propos de Benoît Hamon. Benoît Hamon a l'intelligence de dire, ah, mais pour moi, je fais un truc à l'étape. D'abord, j'augmente les minima sociaux jusqu'à 600 euros. Bon, ce qui serait une bonne chose. Et après, on évoluera vers 750 euros pour, en le généralisant à tous les individus. Mais, le tort de Benoît Hamon, c'est d'abandonner à Valls la question du travail. Et donc Valls, l'autre soir à la télévision, il a eu beau jeu de dire que on ne pouvait pas concevoir une société dans laquelle on accepterait que le travail disparaisse, ce qui est totalement contraire à la nécessité de satisfaire les besoins qu'il y a à satisfaire. Et donc, reprendre à son compte cette idée que le travail serait en voie de disparition, ça c'est une erreur monumentale et qui mine le projet généreux qu'il incarne, mais qui... Ce minage du projet, il tient à ce dont j'ai parlé tout à fait au début et que j'ai répété il y a un instant, à savoir que on a l'illusion qu'il y aurait de la richesse qui tomberait du ciel parce que on déciderait que toutes les activités libres exercées par les individus peuvent recevoir un tel revenu. Mais s'il y a des activités libres, je le répète une dernière fois, s'il y a des activités libres tout à fait essentielles à ce qu'il y ait une société qui tienne debout, histoire qu'il soit vivable, eh bien, ça n'enlève pas la nécessité qu'il y ait un travail productif de valeur monétaire qui puisse financer toute la protection sociale dont nous avons besoin. Et toute la protection sociale, et pas que, puisque maintenant on a à prendre en charge la crise écologique, donc c'est tout le modèle productif qu'il y a à revoir. Et donc, face au revenu universel, ce qu'il faut proposer comme alternative, c'est la réduction du temps de travail. La réduction du temps de travail, d'une part, pour pouvoir permettre l'emploi de tous ceux qui le peuvent et tous ceux qui le veulent, et en même temps d'enclencher un mécanisme qui fasse que la conception du bien-être soit progressivement modifié pour laisser place à un mode de vie qui soit beaucoup plus soutenable que celui que le capitalisme nous impose.
Peut-être un droit de réponse sur pour le salariat.
Je vais répondre à Jean-Marie. Bon, je voudrais pas que nos divergences avec Jean-Marie monopolisent non plus le débat sur le revenu universel, mais je vais quand même faire une réponse assez rapide.
Notamment, vous pouvez l'orienter aussi sur la question du financement.
Et après, je vais parler un petit peu du désaccord sur le travail, et puis après sur je rebondirai sur effectivement le positionnement actuel sur le revenu universel. Oui, nous on affirme clairement que nous sommes tous producteurs. Bon, pourquoi? Parce que on considère que la validation sociale du travail, elle repose sur la lutte de classe. Je prends un exemple assez simple, et là je pense qu'il y a une confusion effectivement qui est entretenue un petit peu par Jean-Marie, si je peux me permettre. Je prends un exemple assez simple, c'est la santé. La santé, pendant longtemps, les dispensaires, d'accord, étaient pris en charge par la religion, les sœurs, etc., etc. Et puis aujourd'hui, on a des hôpitaux, d'accord, et des aides-soignants. Et ces aides-soignants, aujourd'hui, ils sont payés par qui? Par les cotisations sociales, d'accord? Qui payent donc, pourquoi? Parce que ces gens-là, comme ils ne sont pas sur le marché, ne créent pas de valeur économique, d'accord? Il faut bien qu'ils aient un droit de tirage sur la valeur économique, d'accord? Pour pouvoir manger, Voilà. Donc, effectivement, ils sont reconnus en tant que créateurs de valeur économique, ne serait-ce que par le salaire qui leur est donné dans leur activité, et ça par les cotisations, c'est les cotisations sociales qui reconnaissent leur valeur, ce qui n'était pas avant. Donc le champ de la validation sociale, il s'élargit tous les jours en fonction des luttes sociales, et effectivement de l'élargissement du domaine que nous on veut financer par la cotisation sociale, d'où cet outil fondamental et révolutionnaire qu'est la sécurité sociale.
Voilà. Est-ce que tu sais que jusqu'à présent tu n'as pas dit autre chose que ce que j'ai dit à un instant?
Voilà.
C'est-à-dire
donc,
que l'exemple que tu prends de la santé, c'est exactement celui que j'avais pris, et donc c'est pas...
Mais je voudrais juste finir, parce que c'est là où arrive la distinction, parce que en fait, si tu prends que la moitié... Pardon, excuse-moi Jean-Marie, j'ai peut-être pas été assez vite. En fait, là où arrive notre désaccord, c'est sur la seconde partie de ce que je vais développer. Voilà. C'est-à-dire que, prenons maintenant les retraités. Les retraités. Moi, je sais pas, mais les retraités, je n'ai que des gens autour de moi qui, après le travail en entreprise, le travail validé économiquement par l'entreprise, continuent des activités dans la culture, dans l'associatif, qui même amènent leur savoir-faire dans des entreprises, etc., qui sont pas payés, d'accord, qui le font bénévolement, et qui continuent à produire de la valeur en dehors du champ.
Non, pas de la valeur.
Si, de la valeur d'usage, et pour ceux qui valident et leur retraite, au même titre que leur retraite, pour nous, on considère que c'est un salaire à vie qui valide cette valeur, au même titre que le salaire qui est versé aux aides-soignants. Voilà. Donc ça, c'est hein, par
donc,
exemple. Voilà.
Donc
d'ailleurs, même nous, on a une définition du travail qui est la suivante, c'est-à-dire que tout ce qui ne peut pas être fait par un autre, d'accord, et du travail. Voilà. C'est-à-dire que là, on n'est pas en train de travailler. Quand on joue à la belote, on n'est pas en train de travailler. Voilà. Et puis il y a plein de moments où on travaille pas, quoi. Effectivement, les retraités, quand on devient grabataire et qu'on devient dépendant, on travaille plus. On peut créer plus de valeur d'usage. Voilà. Quand on dort, on crée plus de valeur d'usage. Quand on part en vacances, on se prélasse sur les plages, on ne crée pas de valeur d'usage. Mais il y a plein de moments où on ne crée pas de valeur d'usage. Hein. On n'est pas tout le temps en train de créer en train de produire. Voilà. Et pourtant, on est payé en permanence. Hein. Les congés payés, c'est bien ça. Votre salaire, vous le touchez du début à la fin du mois. Même quand vous dormez, voilà. Bon, donc on est,
donc. On peut pas discuter là parce que.
Oui, non mais et à un moment donné, il y a une reconnaissance sociale. Est-ce que la bon, on va pas s'étendre là-dessus. La retraite, c'est la reconnaissance. De la production.
Sur des retraités. Sur le revenu universel.
Mais c'est important. C'est important parce que c'est comment on
non,
est.
Non, on a bien compris.
En étant ce champ-là.
C'est des questions sous-jacentes derrière ce concept.
C'est voilà. C'est-à-dire que.
L'émission, je l'avais dit avant l'émission, le responsable qui m'avait appelé, bon, l'émission va porter plus sur le salaire à vie que sur le revenu d'existence, mais bon.
Non, mais c'était juste pour te répondre, Jean-Marie. Après, moi, je veux pas, on va pas trancher cette question-là ce soir, on est bien d'accord.
Ce sujet, voilà. Mais bon, je dis une dernière fois la chose suivante. Il y a une erreur de raisonnement à la base. C'est pas le salaire qui est versé à l'infirmier dans les hôpitaux, à l'infirmière et au médecin qui valide son travail. Non, c'est la décision politique antérieure de soigner les malades et la décision politique antérieure d'apprendre à lire et écrire aux enfants. C'est ça, la validation sociale. C'est pas le versement d'un salaire. Donc, quand moi, je suis à la retraite, et même ce que tu disais à l'instant, le fait que pendant les vacances, je produis pas, mais je continue à recevoir ma retraite. Donc, il y a bien un truc qui cloche dans le raisonnement. C'est pas le versement d'un salaire qui vaut validation. C'est la décision de valider le travail, l'activité productive qui est avant le versement du salaire. C'est ça la décision. Et c'est là le point de désaccord que j'ai depuis 25 ans avec Bernard Friot, qui d'ailleurs a modifié progressivement la façon dont il l'exprime. Et c'est beaucoup plus acceptable aujourd'hui. Mais le réseau salariat, et je connais bien les textes qui sont sur votre site, le réseau salariat continue à propager un discours que même Bernard Friot ne reprend plus aujourd'hui. C'est-à-dire que vous pouvez plus dire que c'est le versement d'un salaire qui vaut validation sociale. Non, ce qui vaut validation sociale, c'est la décision de faire produire tel ou tel service, telle ou telle marchandise, parce que c'est utile à la société. C'est ça, la validation, et pas le versement d'un salaire. Et le versement d'un salaire, après, eh bien, c'est un transfert. On transfère les pensions de retraite. Ça, c'est le béaba, quoi. C'est le béaba de l'économie politique. Et donc, dire énoncer un raisonnement contraire vicie la discussion, parce qu'on peut plus après, justifier justement l'augmentation des retraites, puisque je n'augmente pas mon activité à la retraite. Donc, comme je n'augmente pas mon activité, je peux plus revendiquer l'augmentation de ma retraite. Donc, il y a quelque chose qui cloche dans le raisonnement. Il faut accepter de le poser sur la table, ce raisonnement, et après, on pourra effectivement prendre en compte et parler du projet normatif de renverser le capitalisme et de mettre des institutions salariales à la place des institutions capitalistes. Parce que ça, c'est un beau projet, mais il faut l'asseoir sur autre chose que sur des erreurs de raisonnement.
Bon, on ne vous mettra pas d'accord ce soir,
c'est pas grave,
on a bien compris. On va faire une dernière pause musicale avant de revenir sur notre sujet. On va écouter Trust, bosser 8 heures. Voilà.
Mon salaire, c'est le salaire de la sueur. La raison de bosser 8 heures. Mon salaire, c'est le salaire de la peur. Faut qu'on baisse autour de toi. Le syndicat se porte. T'as bien raison de bosser 8 heures. T'as bien raison de bosser 8 heures.
Je sais pas si on a raison de bosser 8 heures ou pas, mais en tout cas, vous êtes toujours sur...
Ça dépend si c'est par semaine, ça va.
Si c'est 8 heures par semaine, ça va. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM, l'émission de mode d'emploi animée par la Fondation Copernic. Ce soir est consacrée au revenu universel. Donc, pour revenir un peu au sujet initial...
Pas que, finalement.
Le revenu universel, pas que, oui. Mais donc, pour revenir un peu au sujet initial, le revenu d'existence, le revenu universel, peut-être on peut repartir sur des expérimentations qui ont été menées dans différents pays. Alors, on pense... à la Finlande actuellement, mais il y a d'autres pays qui se sont lancés sur ces sujets. Alors peut-être Edouard, si vous voulez.
Oui. C'est vrai qu'il y a des expérimentations un petit peu partout qui sont quand même toutes bien différentes. Si on veut parler, par exemple, de la Finlande, c'est donc clairement
Là, c'est tout récent. C'est depuis le 1er janvier de cette année.
Mais enfin, c'est sur la presse depuis des années. Enfin, depuis en tous les cas le. L'arrivée au pouvoir d'un gouvernement libéral et donc qui a préparé cette expérimentation qui est rentrée en vigueur au début de cette année. C'est sur un échantillonnage relativement faible, hein. Ce sont 2000 personnes qui sont au chômage de longue durée. Et donc ce qui est envisagé, c'est donc un salaire inconditionnel. Entre guillemets, parce que ça c'est l'argument un petit peu piège, parce qu'en fait il y a toujours une contrepartie, il y a toujours l'inconditionnalité. Dans ce cas-là, elle se fait au prix des allocations chômage, puisque c'est ce qui est prévu. Le revenu universel en Finlande supprimera de fait toute une série d'allocations sociales, chômage.
C'est vraiment la version libérale de...
C'est oui,
du revenu universel.
Disons qu'elle est un petit peu plus généreuse, parce que son montant peut, de mémoire, il est arrêté aux alentours de 700 à 800 euros mensuels, mais bon, ce sera malgré tout au détriment des aides sociales et des allocations chômage, surtout qui sont à l'heure actuelle en vigueur là-bas. Donc on voit bien que, pour croiser un petit peu ce que disait Jean-Marie Arribet tout à l'heure, que le problème du financement, c'est ce qui se posera à tout gouvernement, de gauche ou libéral, comment financer une mesure comme celle-ci, si ce n'est en tapant dans les caisses existantes, que ce soit par le biais de l'impôt ou que ce soit par le biais des modèles sociaux par la cotisation sociale. Ce sera de toute façon un mode de remplacement et qui en fait n'apportera rien d'autre qu'une simplification de dire voilà, au lieu de toucher telle et telle et telle et telle prestation, il n'y en aura qu'une et ce sera celle-ci, et elle ira pas bien haut, parce que pour qu'elle soit entre guillemets économiquement viable, il faut qu'elle coûte le moins cher possible, et donc elle se financera en partie sur ces allocations.
Et partir d'un financement un peu plus polémique, par exemple, je sais pas, la lutte contre l'évasion fiscale ou l'annulation de la dette.
Bien entendu qu'on peut faire rentrer en ligne de compte une autre vue, donc par la lutte contre la fraude fiscale, ça c'est bien évidemment une solution. L'évasion
pas,
aussi, il y a la fraude et il y a l'évasion. Ou ne serait-ce que la fraude aux cotisations sociales, qui est un sport national en France. Ça, c'est bien évident. Mais ce que l'on peut, en tous les cas, retirer sur les expérimentations, c'est que, d'une manière générale, et en tout cas en Europe, sur ce qui est sur la table, c'est le gouvernement qui va mettre ça en œuvre, met le doigt dans un engrenage qui mettra à terre les modèles sociaux existants. Si ça se faisait en France, on peut parier à coup sûr que sous 15 ans, avec les alternances, le régime général de la sécurité sociale serait privatisé. Ce qui est un espoir sans cesse animé au sein de la droite et des libéraux. Ça représente quand même 600 milliards d'euros, un marché comme celui-ci, comme celui de la sécurité sociale. C'est très attractif pour les libéraux et les marchés financiers. Donc, faut jamais perdre ça de vue.
Ça, c'est peut-être un point de convergence que peut retrouver avec la Fondation Copernic, avec Jean-Marie Arribet, non?
Ah, bien sûr, tout à fait. Non,
alors,
mais ça,
justement, il est dit un peu partout dans la presse qu'il y a beaucoup d'expériences de revenus universels. En fait, il n'y en a pas. Parce que ce qui est présenté comme des expériences de revenus universels ne sont justement pas universels.
Oui, ça a l'air d'être un peu restreint.
Le cas du Canada, où dans deux villes, déjà dans les années 70, il y avait des expérimentations, mais qui visaient les pauvres, les personnes les plus pauvres. Et donc, ce n'est pas donc à caractère universel. Il y a un autre exemple en Alaska, où il y a chaque résident de l'Alaska reçoit
2000 dollars
d'environ 150 euros par mois, mais qui est financé par un prélèvement sur la rente pétrolière. Mmh. Et on voit bien le vice de ce
que
type.
Tous les pays n'ont pas.
Pardon ?
Que tous les pays n'ont pas pour financer.
Mais même quand on l'a,
comme
c'est le cas pour ce pays, pour cet État, ce n'est pas durable. Par définition, le pétrole verra un jour sa fin arriver, donc on ne peut pas asseoir une protection sociale sur une rente prélevée sur une source qui est en train de s'épuiser. Et donc, en France, il y a des projets d'expérimentation, on nous dit. Alors, par exemple, je suis bien placé pour le savoir, dans la nouvelle région Aquitaine, il y a un projet d'étude de faisabilité du versement d'un revenu universel. Et il y a d'autres régions aussi qui veulent se lancer dans ce type d'études-là. Mais comme le versement éventuel d'un revenu universel mettrait en question, mais nécessiterait une réforme de la fiscalité nationale, il ne peut pas y avoir d'expérience probante qui soit généralisable dans une région ou dans un département, puisque par définition, ça implique une réforme de la fiscalité. On ne fait pas une réforme de la fiscalité à l'échelle d'un département ou d'une région. Donc il y a tout un discours, une propagande autour de ces expérimentations de soi-disant de revenus universels, mais qui n'en sont pas. Et qui, de toute façon, même s'ils en étaient, hein, si c'était par exemple tous les Aquitains qui recevaient ce type d'allocation, ça ne serait pas généralisable, parce que la réforme de la fiscalité n'est pas du domaine de la région Aquitaine. Et le raisonnement vaut pour toutes les autres régions, bien sûr.
Et Jean-Marie Arribet, on vous remercie. L'émission arrive à sa fin. Peut-être Frédéric Luteau, un dernier mot avant de rendre l'antenne.
Oui. Évidemment, comme dit Jean-Marie, à juste, très juste titre, il n'y a pas de revenu universel aujourd'hui. Si donc le projet des libertariens qui consiste effectivement à donner une enveloppe, voilà, pour solde de tout compte, voilà, aux gens qui ne travailleraient pas. Comme ça, on achète finalement une forme de paix sociale, voilà. Et puis, on rentre en concurrence avec évidemment une institution qui les dérange fondamentalement, c'est la sécurité sociale. Hein. Et du coup, bah, y a ceux qui seront détenteurs effectivement de l'activité économique, et puis il y a ceux qui en seront exclus, et puis à qui on donnera un minimum de revenus décents ou pas décents. D'ailleurs, ça va être bon. Voilà. Donc, ce qui est proposé aujourd'hui, moi je trouve que l'intérêt du revenu universel tel qu'il anime les débats aujourd'hui dans la gauche, notamment à travers évidemment le projet de gouvernement, c'est qu'il remet sur la table, voilà, une centaine, hein, on arrête de parler du burkini et tout ça, et on parle d'une
question sociale,
la question sociale, la question de la protection sociale, la question de la sécurité sociale, et la question du salaire.
Et d'un vrai projet de société aussi.
Et la question du travail.
Et donc,
en amont du salaire.
Et donc, la question du travail, bien entendu. Et donc, la question du travail. Parce qu'aujourd'hui, le projet de Benoît Hamon, c'est quoi? C'est dire, il y a plusieurs étages à la fusée, effectivement. Le premier, c'est d'étendre le RSA, vous savez, aux 18-25 ans. Ben nous, personne ne peut s'opposer vraiment à ça. Hein, voilà. On étend le RSA aux 18-25 ans. On veut revaloriser de 10% les minima sociaux, notamment le RSA. Très bien. Ben, extension et revalorisation, très bien. Après, se pose la question de l'extension de ce RSA sur un revenu. Alors, c'est pas à tout le monde. Hein, la position de Piketty, par exemple, celle-là, c'est sur les bas salaires. Alors, 1500 euros, 2000 euros. Et c'est déjà une problématique qu'il y a au sein même du RSA. Parce qu'on touche son RSA, hein, parce qu'il y a une dégressivité du RSA qui consiste à continuer à toucher son salaire. Non, mais c'est très important. Là, on revient vraiment à ce qui...
Il reste une minute.
Voilà. C'est que le RSA est continué à toucher pendant qu'on travaille. C'est-à-dire que ça revient à quoi? Ça revient par l'impôt ou par des cotisations sociales, si c'était une branche de la sécurité sociale, par exemple, qui se crée, à payer par nos impôts nos cotisations, à financer des emplois du privé. Pourquoi on irait donner de l'argent à des gens? Parce qu'on a un salaire finalement insuffisant. C'est ça que je dis.
On justifierait les bas salaires.
On cautionne un salaire insuffisant, alors que on n'a jamais gagné. La France n'a jamais été aussi riche de son histoire. Hein. C'est-à-dire que en donnant un revenu compensatoire, en fait, financé par les citoyens, voilà, par nos impôts et par nos cotisations. Et c'est ça qui est inacceptable, en fait. Voilà.
Très bien, on vous remercie tous les trois. On va rendre l'antenne à l'émission suivante. Vous pouvez retrouver l'émission sur les différents sites web Mode d'emploi et de la Fondation Copernic. La prochaine émission de la Fondation Copernic, c'est le vendredi 25 février sur l'ubérisation de l'économie et ses conséquences, notamment sociales.
Ah, bonsoir.
On se quitte avec les cœurs purs, Jean-Roger.
Bonsoir à Jean-Marie
Cossimon.
Aussi.
Voilà.
Bonne soirée. Merci, j'espère qu'on aura l'occasion de débattre. Voilà. Bonsoir.
Merci, bonne soirée.
Ils ne sont pas encore amis, des notaires et des notables. Ils ne sont pas encore admis à dîner le soir à leur table. Ils ne sont pas encore polis.